Chapitre 44 Réception. Le pilier ardent s'en allait vers le bord au soleil, tout comme un orage s'éloigne sur l'horizon. Les nodules lumineux ne se hâtaient plus sur la surface rouge. À l'intérieur de la capsule, à l'abri d'un univers qui aurait pu l'annihiler en un millième de seconde, David Bowman attendait ce qui devait venir. La naine blanche parut accélérer encore. Elle atteignit l'horizon, l'embrasa et disparut. Un faux crépuscule tomba sur l'enfer qui rougeoyait tout en bas, et une soudaine variation de lumière avertit Bowman que quelque chose de nouveau se passait à l'extérieur. Le monde rouge se faisait flou, comme s'il le contemplait au travers d'un rideau de gouttelettes d'eau. Pendant un instant, il se demanda même si ce n'était pas là le résultat d'un effet de diffraction dû au passage d'une onde de choc inhabituelle dans l'atmosphère. La lumière s'estompait. On eût dit qu'un second crépuscule allait immédiatement succéder au premier. Involontairement, Bowman leva la tête. Mais la lumière, ici, venait du bas. Il avait l'impression que des parois de verre fumé se rabattaient sur la capsule, altérant la clarté rouge, obscurcissant la vision. Tout se fit de plus en plus sombre, et le grondement lointain des ouragans stellaires lui-même finit par décroître et mourir. La capsule flottait dans le silence, dans la nuit. Et un instant plus tard, il y eut un choc extrêmement doux lorsqu'elle se posa. « Sur quoi ?» se demanda Bowman. Et la lumière revint, et les questions laissèrent place à un désespoir immense, car ce qu'il voyait maintenant autour de lui indiquait qu'il était fou. Il s'était attendu à tout, sauf à cette scène banale et familière. La capsule était posée sur le plancher lisse d'un appartement d'hôtel, élégant et anonyme, qui pouvait se trouver dans n'importe quelle ville importante sur Terre. Le regard de Bowman parcourait un living room meublé d'une desserte, d'un divan, de 6 chaises, d'un secrétaire, de divers luminaires et d'une bibliothèque à demi pleine de livres, sur laquelle étaient posés quelques magazines et même un vase de fleurs. Sur un mur, Pont en Arles de Van Gogh, sur l'autre, Christina's World de Wyeth. Bowman était certain que s'il ouvrait le secrétaire, il y trouverait une Bible. S'il était réellement fou, ses visions étaient merveilleusement organisées car tout était parfait. Quand il bougeait, rien ne disparaissait. Le seul élément incongru, très incongru, de ce décor était la capsule elle-même. Durant plusieurs minutes, il ne quitta pas son siège. Il espérait vaguement que la vision allait s'effacer. Mais elle resta aussi nette que tous les objets qu'il avait pu rencontrer dans sa vie. Elle était réelle. Il était maintenant incapable de distinguer le rêve de la réalité. C'était peut-être une sorte de test. S'il en était ainsi, non seulement son sort, mais celui de la race humaine tout entière, pouvait dépendre de ses actes dans les instants qui allaient suivre. Il pouvait demeurer assis et attendre ce qui allait arriver, ou bien ouvrir la porte du sas et sortir pour affronter la réalité de cette scène. Le plancher semblait solide. En tout cas, il supportait le poids de la capsule. Il était peu probable qu'il pût tomber au travers, quelle que fût sa nature. Mais restait la question de l'air. Cette pièce pouvait fort bien être plongée dans le vide ou emplie d'une atmosphère empoisonnée. Cela lui semblait toutefois improbable, car nul n'aurait pris la peine de soigner tous ces détails en omettant un point essentiel, mais il ne voulait pas prendre de risques inutiles. Ses années de formation l'avaient rendu vigilant quant au danger de contamination, et il n'était pas disposé à s'exposer à un milieu inconnu aussi longtemps qu'il aurait le choix. Cet endroit avait l'aspect d'un appartement, quelque part aux États-Unis, ce qui ne changeait absolument rien au fait qu'il devait se trouver en réalité à des centaines d'années-lumière du système solaire. Bowman referma son casque, le verrouilla et manœuvra le dispositif d'ouverture de la capsule. Il y eut un bref sifflement quand les pressions s'égalisèrent et il sortit dans la pièce. Pour autant qu'il put en juger, le champ gravifique était normal. Il leva un bras et le laissa retomber. Son geste dura moins d'une seconde, ce qui rendait la situation doublement irréelle. Il était là, debout, en scaphandre, alors qu'il aurait dû flotter, près d'un véhicule qui ne pouvait normalement fonctionner qu'en totale apesanteur. Tous ses réflexes d'astronaute en étaient perturbés et il lui faudrait réfléchir avant chaque mouvement. Comme un homme en transe, il s'avança lentement dans l'appartement. Et celui-ci ne disparut pas ainsi qu'il s'y était attendu. Il demeura parfaitement stable, parfaitement réel. Et apparemment solide. Il s'arrêta près de la desserte. Un visiophone Bell du type standard était posé dessus, avec un annuaire. Bowman se baissa et prit le volume entre ses mains gantées. Sur la couverture, imprimée en caractères familiers, il lut Washington DC. Il regarda alors plus attentivement et, pour la première fois, il eut la preuve palpable qu'il n'était pas sur Terre. Il ne parvenait à lire que le seul mot Washington DC. Le reste demeurait flou, comme s'il contemplait la reproduction d'une photographie de journal. Il ouvrit les pages au hasard. Elles étaient faites d'une matière raide qui n'était certainement pas du papier, bien que la ressemblance fût troublante. Toutes étaient blanches. Il souleva le combiné du visiophone et l'appuya contre son casque. S'il y avait eu une sonorité d'appel, il l'aurait entendu. Mais tout était silencieux. Ainsi, il n'avait affaire qu'à une mise en scène. Il se déplaçait dans un décor factice, bien que fantastiquement précis. Tout cela, il en était certain, n'avait été monté que pour le rassurer, et non pour l'abuser. Du moins, il l'espérait. C'était là une pensée réconfortante, mais néanmoins, il ne comptait pas ôter son scaphandre avant d'avoir achevé ses investigations. Tous les meubles semblaient solides, en parfait état. Il essaya une chaise et elle supporta son poids. Mais les tiroirs ne s'ouvraient pas. Ils étaient faux. Il en était de même des livres et des magazines dont les pages étaient aussi vides que celles de l'annuaire. Seuls les titres étaient lisibles. Le choix était étrange. Des best-sellers ultra-commerciaux, quelques bouquins didactiques très connus et des autobiographies de célébrités. Aucun livre n'avait plus de 3 ans d'âge et le niveau intellectuel était plutôt faible. Mais cela était sans importance puisque l'on ne pouvait même pas retirer les volumes des rayons. 2 portes s'ouvrirent aisément devant Bowman. L'une donnait sur une chambre petite et confortable, meublée d'un lit, d'un bureau et de 2 chaises. Les luminaires s'allumaient et s'éteignaient, et il y avait même une penderie. Il l'ouvrit et trouva à l'intérieur 4 costumes, une robe de chambre, 12 chemises blanches et du linge de corps. Il prit l'un des costumes et l'examina soigneusement. Pour autant qu'il pût se fier à ses mains gantées, il était fait d'une matière qui ressemblait plus à de la peau qu'à de la laine. La coupe était également assez démodée. Il y avait au moins 4 ans que l'on ne portait plus de costumes croisés. À côté de la chambre se trouvait une salle de bain. Il s'aperçut que l'équipement n'était pas factice et fonctionnait parfaitement. Il passa ensuite dans une petite cuisine, pourvue d'une cuisinière électrique, d'un réfrigérateur, de 2 placards, d'une table, de 2 chaises et d'un évier. La batterie de cuisine était au complet. Il entreprit d'explorer les lieux plus à fond, poussé par la curiosité et par une faim grandissante. Tout d'abord, il ouvrit le réfrigérateur. Les rayons étaient bien garnis de boîtes et de paquets qui tous, jusqu'à une certaine distance, paraissaient familiers. De près, cependant, les inscriptions des étiquettes devenaient floues et illisibles. Fait notable, Il n'y avait pas de lait, ni d'œufs, ni de beurre, ni de viande, ni de fruits, ni aucune denrée crue. En fait, le réfrigérateur ne contenait que des aliments déjà traités. Bowman prit un paquet de céréales destinées au petit déjeuner, tout en songeant qu'il était étrange de trouver cela dans un réfrigérateur. Mais dès qu'il le souleva, il comprit qu'il ne pouvait certainement pas contenir des céréales. Il était bien trop lourd. Il l'ouvrit et se pencha sur le contenu. Il vit une substance bleue légèrement humide au toucher. La texture et la densité rappelaient le pudding, et en dépit de sa couleur, c'était assez appétissant. Mais c'est ridicule, songea-t-il. On me surveille certainement, et j'ai l'air d'un idiot avec ce scaphandre. S'il s'agit d'une sorte de test d'intelligence, j'ai sûrement déjà échoué, et de loin. Sans plus hésiter, il regagna la chambre et entreprit de déverrouiller son casque. Puis il le souleva d'une fraction de centimètre, fit sauter le seau de sécurité et inspira avec circonspection. L'air lui parut tout à fait normal. Il ôta complètement son casque, le posa sur le lit et entreprit avec joie, non sans difficulté, de se débarrasser de son scaphandre. Libre, il s'étira, respira à fond et suspendit ensuite soigneusement le scaphandre dans la penderie. L'effet était plutôt étrange, mais le goût de l'ordre que Bowman partageait avec tous les astronautes lui eut interdit de mettre sa tenue spatiale en tout autre endroit. Il regagna alors en hâte la cuisine et se mit à inspecter de plus près la boîte de céréales. Le pudding bleu dégageait un parfum discret, épicé, qui rappelait celui d'un macaron. Il le soupesa, puis en brisa un morceau qu'il renifla. Il était certain qu'on ne cherchait pas à l'empoisonner, mais une erreur restait possible, surtout dans le domaine complexe de la biochimie. Il grignota quelques miettes, mâcha et avala. La saveur était si subtile qu'elle lui échappait. Fermant les yeux, il s'imagina manger de la viande ou du pain frais ou même des fruits secs. À moins de suites néfastes, il n'avait plus à redouter la famine. Après plusieurs bouchées de la substance bleue, il se sentit presque rassasié et il chercha quelque chose à boire. Il y avait une demi-douzaine de boîtes de bière d'une bonne marque au fond du réfrigérateur et il en ouvrit une. La tirette céda et le métal se découpa selon le tracé prévu. Mais la boîte ne contenait pas de bière. Il vit avec surprise qu'elle était pleine de substances bleues. En quelques secondes, il eut ouvert toutes les boîtes et les paquets. Quelle que fût l'étiquette, le contenu restait le même. Son régime promettait d'être assez monotone et il n'aurait que de l'eau comme boisson. Il remplit un verre au robinet de la cuisine et but avec précaution. Il recracha immédiatement la première gorgée. C'était atroce. Une seconde lui avait suffi pour identifier le liquide. Puis, honteux de sa réaction, il se força à finir le verre. Une seconde lui avait suffi pour identifier le liquide, et si le goût lui avait paru atroce, c'était en réalité parce qu'il n'y en avait pas. Le robinet donnait de l'eau distillée. Bowman songea que ces hôtes inconnus ne prenaient aucun risque avec sa santé. Il se sentait mieux. Et il décida de prendre une douche. Il n'y avait pas de savon, ce qui était un nouvel inconvénient, mais par contre, la salle de bain était pourvue d'un séchoir à air chaud dans lequel il s'attarda avec délice quelques instants, avant d'enfiler slip, maillot de corps et robe de chambre. Après quoi, il s'étendit sur le lit, contempla le plafond et essaya de réfléchir à sa fantastique situation. Il n'avait guère avancé lorsqu'une nouvelle pensée vint le distraire. Immédiatement au-dessus du lit se trouvait l'écran de TV du modèle courant dans les hôtels. Il avait cru tout d'abord qu'il devait être factice, au même titre que le visiophone ou les livres, mais la télécommande qui pendait à côté du lit semblait si réelle qu'il ne put s'empêcher de jouer avec les boutons. Et l'écran s'alluma. Fiévreusement, il sélectionna une chaîne et obtint presque aussitôt une image. Un commentateur africain très connu apparut. Il parlait des dernières mesures prises pour sauvegarder la faune sauvage de son continent. Bowman écouta pendant quelques secondes, tellement captivé par le simple son de cette voix humaine qu'il ne se préoccupait pas du sens des mots. Puis il changea de chaîne. Dans les minutes qui suivirent, il obtint un orchestre symphonique jouant le concerto pour violon de Walton, une discussion sur la faillite du théâtre classique, un western, une démonstration d'un nouveau traitement contre la migraine, un jeu en langue orientale, un psychodrame, trois commentateurs d'actualité, un match de football, un cours de géométrie dans l'espace, en russe, et divers signaux, mires et bulletins d'information. C'était là, en fait, l'éventail parfaitement normal des émissions mondiales, et en dehors du soutien moral que cela lui apportait, un soupçon se confirmait dans son esprit. Tous ces programmes étaient vieux de 2 ans environ, ce qui correspondait à l'époque de la découverte d'AMT1. Il était difficile de penser que ce n'était qu'une coïncidence. Quelque chose avait espionné la télévision. Le monolithe de Tycho avait été plus actif que ne le pensaient les hommes. Bowman continua d'explorer les chaînes, et il reconnut soudain une scène familière. C'était l'appartement où il se trouvait, occupé par un acteur célèbre affrontant une maîtresse infidèle. Il eut un choc en découvrant le living qu'il venait juste de quitter et dans lequel la caméra suivait le couple orageux jusqu'à sa chambre. Malgré lui, il regarda vers la porte pour voir si personne n'entrait. C'était donc ainsi que l'on avait préparé sa réception. Ses hôtes s'étaient inspirés de programmes de TV. L'impression qu'il avait eue de se trouver à l'intérieur d'un film était presque justifiée. Pour l'instant, il avait appris tout ce qu'il désirait savoir et il éteignit le poste. Que faire maintenant ? Se demanda-t-il en croisant les mains derrière la tête, le regard fixé sur l'écran glauque. Physiquement et émotionnellement, il était épuisé. Pourtant, il lui semblait impossible que l'on pût dormir dans des circonstances aussi fantastiques, si loin de la Terre. Mais l'instinctive sagesse du corps et le confort du lit s'unirent contre sa volonté. Il tâtonna à la recherche d'un bouton, mais déjà la chambre était obscure. En quelques secondes, il fut bien au-delà des rêves. Pour la dernière fois, David Bowman dormait.